Il y a deux forces qui travaillent en nous. C'est le bon et le mauvais esprit. En fait, pour nous, c'est une formule inhabituelle, hein, mais c'est une formule classique. On va la retrouver dès les pères apostoliques, donc oui, la littérature chrétienne très 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 ancienne, dans le Pasteur d'Hermas, sous la forme du bon ange et du mauvais ange. Et voilà, on retrouve des choses très classiques. Ça, vous trouvez ça, chapitre 36, paragraphe 2. Nous dirions aujourd'hui, il me semble, l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit et le Tentateur. Hein, celui du Tentateur. La question est de discerner, au fond, les modes d'action en nous. Alors, je vous lis deux points intéressants, je trouve. Hein, c'est les deux premiers qui sont dans ces règles. Hein, à ceux qui ont de péchés mortels, en péché mortel, l'ennemi a généralement l'habitude de proposer des plaisirs apparents. Il leur fait imaginer des délectations et des plaisirs sensibles pour mieux les maintenir et les faire croître dans leurs vices et leurs péchés. Avec cela, le bon esprit use d'une méthode inverse. Il aiguillonne et ronge leur conscience par la loi naturelle de la raison. Donc il décrit au fond comment les choses se passent. Quelqu'un qui va de péché en péché, au fond, le mauvais esprit, dit-il, va simplement les accompagner avec douceur, très paisible puisqu'on est déjà sur le mauvais chemin, il va juste les conforter, les encourager. Mais, en revanche, avec ces gens-là, le bon esprit, donc Saint-Esprit, va user d'une méthode inverse. Il va aiguillonner et ronger leur conscience par la loi naturelle de la raison. Au fond, je dirais, le Saint-Esprit va travailler par notre mauvaise conscience, hein, lorsque nous éloignons petit à petit, alors que sinon, au fond, on pourrait dire en d'autres termes, le diable voit ça avec beaucoup de sympathie, donc il n'a pas de raison de se fatiguer. Chez ceux qui progressent intensément dans la purification de leurs péchés, donc qui sont en sens inverse, hein, et qui s'élèvent de bien en mieux dans le service de notre Seigneur, c'est la méthode inverse de celle de la première règle. Car alors, le propre de l'esprit mauvais est de mordre, d'attrister et de mettre des obstacles, en inquiétant par de fausses raisons, pour empêcher d'aller de l'avant. Le propre du bon esprit est de donner courage et force, consolation, larmes, inspiration et repos, en diminuant et en supprimant tous les obstacles, afin que l'on marche de l'avant dans la pratique du bien. Donc, ça c'est assez fondateur chez lui, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, nous sommes, notre cœur on pourrait dire, hein, et le théâtre, le lieu de rencontre, le champ de bataille, on pourrait dire à certains égards, hein, de forces contradictoires. Et ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de discerner justement les actions, les forces qui sont en cause et les manières de se comporter. Donc on voit bien que le comportement de ces deux esprits ne correspond pas avec certitude à une réalité objective. Vous voyez, c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, le mauvais esprit qui fait ça. Tout dépend, au fond, du point où nous en sommes et du sens dans lequel nous allons. Et le comportement de l'un comme de l'autre va dépendre du point où nous en sommes. Pour avancer dans ce discernement, l'attention va porter sur ce que nous ressentons, et particulièrement sur ce qu'il va appeler les consolations et les désolations. Il faut mettre entre guillemets au départ, parce que tant que ce n'est pas défini, on ne dit pas ce que ça veut dire. Mais voilà, on va essayer de voir ce que c'est que les consolations pour lui, les désolations. La consolation spirituelle, hein. Vous devez, pour toutes ces choses-là, avoir le texte. Je vérifie juste au passage. La consolation spirituelle. J'appelle consolation le cas où se produit dans l'âme un mouvement intérieur, une motion intérieure, par laquelle l'âme en vient à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur, et où alors elle ne peut plus aimer pour elle-même aucune chose créée sur la face de la terre, mais seulement dans le Créateur de toutes choses. C'est aussi le cas où l'âme verse des larmes qu'il apporte à l'amour de son Seigneur par la douleur de ses péchés ou de la passion du Christ notre Seigneur ou d'autres choses directement ordonnées à son service et à sa louange. J'appelle enfin consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité et toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et aux biens propres de l'âme en la reposant et en la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Alors vous voyez qu'on s'intéresse là, qu'il y a à s'intéresser là, non pas du tout à des grands trucs objectifs, doctrinaux ou autres, mais à au ressenti. Et là, il dit, la consolation, au fond, ça peut être trois choses. Hein. Ça peut être, si vous vous rappelez le récit des pèlerins d'Emmaüs, hein, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous racontait, nous expliquait les Écritures. C'est un peu ça. Hein. L'âme s'enflamme dans l'amour de son Créateur et Seigneur, et elle ne peut plus aimer pour elle-même aucune chose créée sur la face de la terre, mais simplement en Dieu. C'est une sorte de jubilation intérieure, hein, d'embrasement du cœur, qui fait, au fond, s'orienter vers Dieu, qui fait regarder toute chose en Dieu. Ça, c'est de l'ordre du ressenti. Mais c'est aussi le cas où l'âme verse des larmes, qui la porte à l'amour de son Seigneur, par la douleur de ses péchés, ou de la passion du Christ, notre Seigneur, etc. C'est au fond la prise de conscience du péché, c'est la repentance, c'est le désir à la fois du pardon et de la transformation. Et puis enfin, c'est n'importe quoi presque qui aboutit à l'augmentation en moi de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et toute allégresse intérieure qui appelle au mieux, hein, qui nous tourne vers Dieu. Voilà, tout ça, ce sont les consolations. Maintenant, il y a la désolation spirituelle qui est très exactement le contraire. J'appelle désolation tout le contraire de la troisième règle, donc de la consolation. Par exemple, ténèbres de l'âme, troubles intérieurs, motion vers ce qui est bas et terrestre, donc désir de ce qui est bas et terrestre, hein, mouvement dans ce sens, inquiétude devant les diverses agitations et tentations qui poussent à perdre la confiance, sans espérance, sans amour. Donc c'est le contraire. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous éloigne de la paix, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous éloigne au fond de la communion avec Dieu et de la vie avec Dieu. L'âme s'y trouve toute paresseuse, tiède, triste, comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car comme la consolation est à l'opposé de la désolation, les pensées qui naissent de la consolation sont également à l'opposé des pensées qui naissent de la désolation. Alors, voilà, ça paraît comme ça au premier abord tout bête, hein, il y a le blanc et le noir, on pourrait presque dire, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que, quand je dis c'est beaucoup plus compliqué, c'est, oui, plus intelligent que juste il y a le bien et le mal, ça on le savait déjà. Mais il dit, il faut prendre conscience déjà de ce qui se passe en nous et de ces deux éléments, essayer de discerner consolation et désolation. Et vous verrez que la désolation peut avoir des raisons multiples et variées, pas forcément toutes mauvaises. Première règle, très humble. Alors, il y a tout au long des exercices, mais tout au long de la vie spirituelle, hein, une attention à avoir sur ce qui se passe en nous. Au fond, il y a toute une spiritualité, quelquefois très protestante, hein, qui va s'éloigner du ressenti, qui va dire, allez, marche, debout, fais pas attention à toi. Hein? C'est assez courant, me semble-t-il. Là, c'est le contraire. C'est, si tu veux bien marcher, fais attention à toi. Pas en te regardant le nombril, ça c'est... Il y a un côté mal. Il peut y avoir un côté mal, ça. Mais sois attentif à ce qui se passe en toi pour y voir clair. Donc, essayez chaque jour, les moments d'examen de soi-même sont aussi là pour ça, voir un peu ce qui se passe. Hein, être conscient de ce qui se passe. Et alors, première règle de conduite qui vient immédiatement, ça je vous donne ça comme de la part d'Ignace, un conseil pratique, en période de désolation, ne prendre aucune décision. Ne rien changer, mais continuer sur la voie que nous avons choisie lorsque nous étions en période de consolation. Quand ça va pas, c'est pas le moment de remettre en cause les choix principaux. Ça je crois que c'est de la sagesse basique, mais relativement précieuse. La première lucidité, c'est de comprendre que pendant ces périodes, justement, nous sommes incapables de prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'il dit au point 5, en période de désolation, ne jamais faire de changement, mais s'en tenir avec fermeté et constance aux décisions et à la détermination dans laquelle on était pendant la consolation qui a précédé. Car dans la consolation, c'est surtout le bon esprit qui nous guide et nous conseille, et dans la désolation, c'est le mauvais, dont les conseils ne peuvent nous faire prendre un bon chemin qui aboutisse, un chemin qui aboutisse. En revanche, il est important de prendre cette désolation à bras le corps et de ne pas simplement se laisser aller. mais il s'agit de tout faire pour essayer de retrouver son dynamisme intérieur. Il dit ceci, si dans la désolation, il ne faut pas changer nos décisions premières, il est par contre excellent de nous changer nous-mêmes vigoureusement face à cette désolation. Par exemple, en nous ancrant davantage dans l'oraison, dans la prière, dans l'examen rigoureux, dans l'examen de soi-même, hein, et en étendant dans la mesure convenable notre pratique de la pénitence, donc de la repentance. Donc ça, je crois qu'il y a une sagesse préventive qui me paraît utile. C'est pas au moment où je me sens troublé, mal dans ma peau, etc., que je dois prendre des grandes décisions pour orienter l'avenir. Alors, après, il est important pour lui d'essayer de discerner d'où peuvent venir ces états de désolation. C'est une première chose de dire, ben, en ce moment, je sens que rien ne va, j'ai pas goût à la lecture, à la méditation de l'écriture, la prière, j'arrive pas à me concentrer, elle me donne rien, je sens que, voilà, l'amour, on peut pas dire que ça se développe, la foi, elle est tremblotante, l'espérance, on la cherche, mais on la trouve pas, etc. Alors, il dit, il y a trois raisons principales. Et vous allez voir qu'elles sont très différentes, ces raisons. La première, il faut d'abord chercher là. La première, parce que nous sommes tièdes, paresseux et négligents dans nos exercices spirituels. C'est alors à cause de notre faute, de nos fautes, que la consolation spirituelle s'éloigne de nous. Ça, c'est la première chose. Quand vous êtes en période comme ça, où ça ne va pas, demandez-vous d'abord si ça vient de vous. Hein, est-ce que vous avez tranquillement laissé... Vous êtes, quelquefois, on s'éloigne petit à petit d'une certaine discipline, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de ça. Il ne faut pas s'étonner après que ça aille moins bien. Mais de notre côté, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Il suffit de revenir. Le problème, c'est on a bien examiné tout ça et on s'aperçoit que non. C'est quoi ça? On a essayé de rester aussi fidèle qu'on le pouvait. On fait tout ce qu'on peut. Hein. Rappelez, Tolère faisait des choses un peu comme ça. On rentre dans le désert alors qu'on n'y est normalement pas pour. À vue du maire, enfin, notre autant qu'on puisse en juger, on n'y est pour rien. Alors il dit, il y a une seconde raison. La seconde raison, c'est pour éprouver cette désolation, elle est pour éprouver ce que nous valons et jusqu'où nous pouvons aller dans son service et sa louange de Dieu sans un tel salaire de consolation et d'immense grâce. C'est Dieu, au fond, qui coupe, si j'ose dire, le plaisir ou les bénéfices qu'on peut tirer de la vie spirituelle pour voir, pour éprouver au fond, pour voir si ça tient. Vous rappelez, c'est le début du livre de Job où Satan dit à Dieu, mais bien sûr, Job, il est fidèle parce que tu le combles de bénédictions. Enlève ces bénédictions, tu vas voir s'il continue à être fidèle. C'est un peu la même idée, là. C'est l'épreuve au sens de tenir bon, on pourrait dire, dans la vie spirituelle. Et donc, cette désolation-là, j'ai envie de dire, elle n'a rien de tragique. Il s'agit pas de... Il s'agit là aussi de traverser avec patience, mais pas... Troisième, c'est pas très différent, mais c'est un peu différent, pour nous donner, c'est toujours Dieu qui est derrière, hein, pour nous donner d'apprendre et de connaître en vérité, afin de le sentir intérieurement, qu'il ne dépend pas de nous, de faire naître ou de conserver une immense dévotion, un intense amour, des larmes, ni aucune autre consolation spirituelle, mais que tout est grâce et don de Dieu notre Seigneur. Et que nous n'allions pas faire notre niche et autrui, nous monter l'esprit jusqu'à l'orgueil ou la vaine gloire en nous attribuant la dévotion et les autres effets de la consolation spirituelle. Au fond, la troisième raison, c'est pour nous rappeler que tout est grâce. Et qu'il ne faut pas croire que les bénédictions ou les fruits de l'esprit sont une sorte de résultat automatique d'un comportement. Comme si on disait, voilà, et là je crois que c'est aussi très réaliste, hein. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Voilà, vous avez eu des temps difficiles, etc. Puis là, vous êtes remis, ça se remet en place, vous avez l'impression que, voilà, que de nouveau, Dieu est présent, que vous êtes présent à Dieu, qu'il y a cette communion, etc. Et vous dites, voilà, ça maintenant... Enfin, j'ai trouvé, ben là, je ne vais plus m'éloigner, j'ai trouvé comment il fallait faire, je sais comment ça marche, sous-entendu, c'est un peu le distributeur automatique, je sais où il faut mettre la pièce, si je mets la pièce, la bouteille de coca, normalement, va tomber. Et là, c'est un peu pareil. Hein. C'est pour nous rappeler que ça ne fonctionne pas comme ça. Et qu'en fait, ça vient de Dieu. Et que bien sûr, nous avons la capacité très efficace de nous éloigner ou de fermer la porte, ça c'est notre responsabilité, mais que si Dieu nous donne quelque chose, c'est quand même Dieu qui nous donne, c'est pas moi qui vais déclencher les choses. Donc voilà, creuser déjà quelques, essayer de discerner les raisons qui font agir. Et puis alors suivent trois remarques que je ne vais pas noter là, qu'on pourrait appeler, ça c'est C.S. Lewis qui dit ça, mais c'est un peu ça, les tactiques du diable, vous savez, c'est un peu la même chose. Et alors il dit ceci, je vous donne juste les trois têtes de chapitre, il dit ceci, l'ennemi se conduit de diverses manières avec nous, comme une femme, comme un amoureux frivole et comme un chef de guet. Alors, je vais vous décrire les trois en vous demandant pardon, mesdames, d'abord pour la première. C'est lui, c'est Ignace, c'est pas moi, je suis rien de rien de rien. Il dit ceci. Satan se... Mais vous allez voir. Si vous traduisez dans d'autres termes, ça dit des choses très justes. Mais je vous accorde que dit comme ça, il y a de quoi brûler quelqu'un aujourd'hui. Comme une femme, c'est-à-dire faible quand nous lui résistons, fort quand nous la laissons faire. Au fond, traduit autrement, c'est un peu résister au diable et il fuira loin de vous. Hein, c'est un peu ça. Glissons. Comme un amoureux frivole qui voudrait rester secret et ne pas être découvert. Hein, c'est l'amoureux, au fond, qui est très plein d'amour parce qu'il va faire des tas de choses en cachette. Mais le jour où le mari s'en aperçoit, alors il n'y a plus personne. Et au fond, c'est la même chose pour le diable. Tant que la tentation se fait en douce et en cachette, elle est redoutablement efficace. À partir du moment où elle passe à la lumière, alors elle perd de sa force. À partir du moment où non seulement je deviens conscient de cette tentation, mais en plus que je le dis à quelqu'un, que je vais par exemple en parler à quelqu'un d'autre, que je vais le confesser, alors la force disparaît. Par contre, si je le garde secret, elle continue de se nourrir. Et puis enfin, comme un chef de guerre qui attaque par le point faible, qui va faire le tour des murailles, qui va surtout pas attaquer là où elles sont bien hautes, bien solides et bien défendues, et qui va voir que là il y a un point faible, et c'est sur ce point faible qu'il va attaquer. Et au fond, si vous voulez savoir votre solidité face à la tentation, c'est pas sur les points où vous êtes solide que ça joue, c'est sur le point où vous êtes le plus faible. C'est-à-dire, la formule qui dit la solidité d'une chaîne est exactement la solidité du maillon le plus faible. Dans notre expérience, c'est la même chose. Je sais qu'il y a des tas de points sur lesquels j'ai quasiment aucune chance d'être tenté. Et je pense que Satan s'en fiche complètement. Parce qu'il y en a d'autres où c'est un tantinet plus faible. Et bien, c'est ceux-là qui sont importants. Les autres, finalement, alors, on n'est pas tous tentés au même endroit. Alors, pour ça, il y a ce que Ignace va développer très largement. Là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout, mais qui va mettre en valeur très fort, c'est l'examen de conscience. Il ne s'agit pas, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une connaissance intellectuelle. Tout ce que je vous dis là, c'est l'intérêt n'est pas de savoir que ça existe et de pouvoir faire un exposé là-dessus. Simplement, savoir les choses ne sert à rien. N'est pas une aide, en tout cas, très précieuse. L'important, c'est d'apprendre à discerner dans le concret de notre vie les motions qui nous animent. Essayez de discerner ce qui se passe en nous. Les tentations que nous avons à affronter, et je dirais les touches par lesquelles l'Esprit de Dieu veut nous faire avancer ou veut nous indiquer le chemin à prendre. Au fond, il importe de devenir attentif à ce qui se passe en nous. Et alors, il y a toute une pédagogie là aussi. Dans les exercices, après chaque méditation, après la prière, après le colloque, etc., au fond, on prend des notes. Ça passe par l'écrit. Pas des notes qui racontent. C'est pas un journal où on raconte tout ce qu'on a vécu. Ça peut être très télégraphique, hein, ça peut être juste quelques remarques, mais des notes où on montre, ou plutôt où on écrit, où on note, on remarque, au fond, l'émotion que nous avons pu sentir, les, au pluriel, hein, émotions que nous avons pu sentir. Savoir que là, il y a tel mouvement intérieur positif, négatif, de consolation de désolation qu'on a pris conscience de telle tentation, de tel point précis. Et alors, dans la dimension de la spiritualité ignatienne en général, les examens, c'est quelque chose de permanent, mais à géométrie, à forme variable. Vous avez des examens quotidiens. Là, je ne parle pas des exercices. Hein. Dans les exercices, c'est vraiment encadré à l'intérieur, mais dans la vie normale, l'idée, c'est chaque jour, le soir en général, parce que par définition, essayez de faire le point. Et alors, dans les exercices même, vous avez un endroit où, alors c'est très pédagogique, d'une certaine manière, où, je ne sais plus où c'est, mais, où il montre des lignes, il fait des lignes sur un tableau, hein, ou sur la feuille, et puis vous notez les tentations, etc. Donc, alors ça peut être un peu, ça peut apprendre des formes diverses, mais chaque jour, avoir un petit moment où on examine le point où on en est. Et l'idée, c'est d'avoir des ce chaque jour est important que ce soit noté. Parce que, périodiquement, peut-être chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé, sur la semaine. Voir comment ça évolue, comment ça bouge. Est-ce que je m'installe dans une situation ou est-ce que finalement ça évolue en pire ou en mieux? Mon expérience, c'est que notre mémoire est très faible pour les choses que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas envie de nous souvenir. Et le fait de noter un certain nombre de choses permet un regard que finalement la simple mémoire ne permet plus guère. Et pouvoir périodiquement, par exemple, vous allez vous dire, ben voilà, aujourd'hui je vais prendre un jour de retraite. Je vais aller à Saint-Loup, je vais demander une chambre et je vais être tranquille pendant toute la journée. Et peut-être que là, c'est le moment de revoir un peu le mois passé, de revoir la période. Voilà. Et là, l'écriture devient très précieuse. Le fait d'avoir un carnet dans lequel, même si c'est de manière tout à fait élémentaire, hein, on a noté des choses, permet de revenir dessus. Alors, je vous donne l'exemple d'un examen général tel qu'il le présente en 5 points. Ça vous donne une idée. La forme peut varier, les modernisations peuvent être tout à fait bienvenues. Mais voilà, il dit ceci. Premièrement, rendre grâce à Dieu notre Seigneur pour les bienfaits reçus. Ça, je trouve ça assez sain aussi, et ça y est. On ne commence pas par se regarder le nombril, d'abord on remercie le Seigneur. C'est quand même bien. Ensuite, demander la grâce, toujours cette idée, vous rappelez, de demander. Hein, demander la grâce pour connaître ses péchés et les rejeter. Je sais que je fais ça, pas par conformisme à une règle que je me suis donnée, mais parce que je cherche à discerner dans ma vie les péchés que je dois éliminer. Donc je demande à Dieu de m'aider là-dedans. Ensuite, et c'est ça l'essentiel de l'examen, demander compte à son âme depuis l'heure du lever jusqu'à l'examen actuel, heure par heure, moment par moment, d'abord des pensées, puis des paroles, puis des actions, selon l'ordre indiqué dans l'examen particulier. C'est-à-dire, regarder ma journée et voir dans ma journée les choses que j'ai pu faire, les choses que j'ai pu dire, qui sont pas à ma grande gloire, les péchés dans lesquels j'ai glissé. Peut-être les tentations auxquelles j'ai résisté. Enfin voilà, essayez d'y voir clair et notez ça. Quatrième point, demander pardon des fautes à Dieu notre Seigneur. Cinquième point, former le propos de s'amender avec sa grâce. On retrouve là la demande au début et la décision à la fin. C'est-à-dire qu'on prend un engagement pour en fonction de ça. Vous voyez, cette attention, c'est le contraire exact du laisser-aller, qui est, je crois, le danger principal du chrétien. Enfin, le mien, en tout cas. C'est des questions de tempérament. Je pense que là aussi, vous verrez, dans l'accompagnement, vous avez des gens qui ont un sens inné de la discipline tellement fort que peut-être les aider, c'est dévisser un peu ce sens excessif de la discipline. J'ai aucun danger de ce côté-là. C'est pas ma pente naturelle. Et puis pour d'autres qui ont déjà les boulons assez lâches, je dirais là, cette discipline, c'est pour ces gens-là que c'est utile. Pour justement ces gens qui tout leur pente naturelle, c'est plutôt le laisser aller, le laisser faire, un certain éloignement de discipline. Et au fond, c'est, vous savez, toute la tradition des pères de l'Église, hein, de la garde du cœur. tradition qui s'enracine dans la Bible, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. C'est ça, c'est la garde du cœur, c'est être attentif à ce qui se passe dans le cœur. Et les exercices nous demandent d'ailleurs d'examiner de la sorte hein, nos oraisons, nos méditations, nos pensées, nos consolations, nos affections. Le but de cette insistance, c'est le souhait, vous rappelez, on a déjà dit ça dans les débuts de l'exercice, des exercices, hein, de nous voir dégagés de toute affection désordonnée. Les affections désordonnées, c'est au fond être, comment dire, j'ai la formule biblique en tête là, à tout vent de doctrine, mais c'est un peu ça, c'est pas la doctrine, mais être un peu ballotté par les flots de toutes les tensions, etc. Alors, maintenant, et on va terminer presque par ça, parler de l'élection. L'élection, c'est pas l'élection présidentielle française, c'est pas non plus l'élection calvinienne, ou la prédestination, c'est le choix. C'est le choix dans la vie. Hein. C'est l'élection que je vais faire entre partir enseigner à Madagascar ou être évangéliste dans le Jura bernois. C'est le discernement, je dirais, entre les différentes choses qui sont possibles. Et cette élection, c'est la prise de décision. Hein. Et c'est le but de ce discernement, il doit déboucher là-dessus. Il s'agit des choix que nous sommes appelés à faire, l'important étant de discerner la volonté de Dieu pour nous. Et on peut dire que la préparation à l'élection est l'objectif principal des exercices. Alors, d'ailleurs, les exercices étaient là en grande partie, au tout début, pour aider les gens à discerner s'ils allaient rentrer ou non chez les jésuites. Et dans les mythes fondateurs des jésuites, hein, vous avez telle personne qui est un cardinal, qui est devenu un grand personnage, je ne sais plus qui c'était, qui était très tenté par Ignace et devenir jésuite, et il a fait les grands exercices. Et au fond, ça ne marchait pas du tout, et il avait l'impression que l'émotion, il ne sentait plus rien. Il disait, mais ni consolation, ni désolation, j'arrive à rien, etc., etc. Grande sérénité, raconte l'histoire de l'accompagnateur, et lorsque l'accompagnateur lui dit, mais finalement, voilà, il faut peut-être prendre conscience, mais on ne sait pas, hein, mais peut-être que vous n'êtes pas appelé à venir chez les jésuites. Et le jour où il a dit, il a pris conscience qu'il ne fallait pas qu'il aille chez les jésuites, alors tout s'est remis en place, et effectivement, il est devenu tout à fait heureux, etc. Et pour les jésuites, ça, c'est l'exemple même de l'efficacité. C'est-à-dire, c'est discerner, mais discerner quel que soit le résultat. Alors, le préambule, deux textes qui vont aider à comprendre, au fond, la pensée d'Ignace. Le préambule pour faire élection. En toute bonne élection, dans la mesure où elle dépend de nous, l'œil de notre intention doit être simple, regardant uniquement ce pour quoi je suis créé, pour la louange de Dieu notre Seigneur et le salut de mon âme. On pourrait dire d'abord, hein, première chose vitale, savoir discerner les priorités. Hein? Qu'est-ce qui est important? À quoi est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? À quoi est-ce que je sers? Pourquoi je suis créé? Pour le service de Dieu. La louange de Dieu, c'est tout le. Hein? C'est, je suis créé pour Dieu et pour le salut de mon âme. Aussi, quel que choix que je fasse, il doit tendre à m'aider pour la fin en vue de laquelle je suis créé. Et ne pas ordonner et soumettre la fin au moyen, mais le moyen à la fin. Très fondamental et pas évident du tout. En fait, dit-il, et ça vous allez voir à quel point ça me paraît réaliste, il arrive que beaucoup choisissent en premier lieu le mariage, ce qui est le moyen, et en second lieu le service de notre Seigneur dans le mariage. Or, c'est le service de Dieu qui est la fin. Au fond, c'est une manière de dire, dans cette prétention au discernement, il y a beaucoup de gens qui mettent les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils vont dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Étant bien entendu que je veux d'abord me marier, avoir des enfants, habiter dans le canton de Vaud jusqu'à la fin de mon existence et avoir un train de vie décent. Maintenant, tout ce que tu veux, compte tenu de ça, je le fais. C'est un peu ce qu'il dit, ça. On met la charrue avant les bœufs. On dit d'abord, voilà tout ce que je veux garder, tout ce que dont je veux être sûr, et puis après, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, attends, pas dans ce sens, ça fonctionne. Il faut d'abord dire, Je veux faire... Alors, mariage et célibat, là, ça joue aussi avec une perspective d'ordre religieux. Hein, de, bon. Mais je trouve que c'est très pertinent. Il dit, est-ce que je veux d'abord me marier, puis après je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ou est-ce que d'abord je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux te servir. Son idée, c'est, tu m'appelles à te servir dans le mariage, je me marie. Tu m'appelles à te servir dans le célibat, je suis disponible. Mais c'est d'abord... L'essentiel doit être mis en premier et les moyens pour obtenir cet essentiel en second. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que au XVIe siècle que ce genre de questions se posaient. Et que plus on va d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire moins ça s'arrange. Hein? Parce que plus dans notre culture, nous avons le présupposé. J'ai l'impression qu'il faut toujours se rappeler que les gens qui nous ont précédés, que ce soit lui, que ce soit Tolère, plus on remonte dans le passé, j'ai l'impression que plus l'insécurité est constitutive de l'existence. C'est évident, la santé. C'était un fil. Aujourd'hui, on a les hôpitaux, les médicaments. À l'époque, vous n'aviez rien de tout ça. Ce qui fait que votre santé, vous saviez qu'elle était fragile. La guerre, c'était permanent. Vous pouviez passer du confort à la tragédie. Aujourd'hui, on passe son temps de manière mythique, mais quand même. Et pas mythique quand on habite dans nos pays. Mais mythique dans d'autres pays du monde, à chercher à se protéger. Alors, j'ai l'impression que souvent, nous, plus nous allons, plus nous considérons qu'un certain mode de vie, de sécurité, etc., fait partie de l'acquis, plus que dans le passé, je crois. Quand nous vivons dans nos pays occidentaux. Donc voilà, cette dimension, chercher d'abord l'essentiel, se désencombrer du secondaire, et après, une fois que on discerne ce que Dieu veut, alors après, le reste suit, mais pas faire passer la charrue avant l'épée. Maintenant, comment faire pour discerner la volonté de Dieu? C'est un peu la question, quand même. Facile de dire, il faut discerner. Ouais, voilà comment. Alors, il dit, il y a trois temps en chacun desquels on peut faire une bonne et saine élection. Pour comprendre, il faut supprimer le mot « temps ». Parce que quand on dit trois, c'est comme ça qu'il le dit, mais je crois que c'est mal dit pour nous. Quand on dit trois temps, on a l'impression que c'est trois temps successifs. Or, ça l'est pas. C'est trois modes, trois manières différentes. Premier temps, ça c'est le rêve. C'est quand Dieu, notre Seigneur, me et attire la volonté, de telle sorte que sans douter ni pouvoir douter, l'âme fidèle suit ce qui lui est montré. Ainsi firent saint Paul et saint Matthieu, quand ils suivirent le Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le rêve. C'est-à-dire, vous avez une vocation contraignante. Vous savez, de certitude absolue, que Dieu veut que vous fassiez telle chose. Hein, c'est Jésus sur le chemin de Damas, où Paul, il dit, prends Paul, et puis voilà. Là, effectivement, c'est simple. Hein. C'est Matthieu qui est au bureau des péages, Jésus passe, toi, suis-moi. Quand ça vous arrive, vous direz, voilà, vous fermez votre bouquin sur le discernement, il n'y a qu'à obéir, et c'est tout ça. Le problème, c'est que c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Et que souvent, c'est un peu plus difficile de discerner. Alors, deuxième mode de discernement, c'est quand on reçoit assez de lumière et de connaissances par l'expérience des consolations et des désolations, et par l'expérience du discernement des divers esprits. Le deuxième mode de discernement, c'est au fond la mise en œuvre de tout ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire, on a essayé de discerner avec, pendant toute une période, le plus d'applications possible, ce qui en nous est consolation et désolation. On a essayé d'être attentif aux modes, par l'examen de conscience, etc., à ce que pouvaient être les raisons de la désolation, etc. On a essayé de creuser tout ça, et en utilisant ces instruments, on va s'apercevoir, on va discerner la volonté de Dieu. Par exemple, on sait qu'on va hésiter entre telle vocation et telle autre. On a deux choix possibles, deux choix qui évidemment sont deux choix bons, sur le plan objectif. Quelqu'un qui vous dit, un jeune qui vous dit, voilà, j'hésite entre faire des études de médecine et faire des études de théologie. les deux sont bonnes, saintes, justes. Tout c'est de savoir à quoi il est appelé lui, mais il n'y a pas d'aide extérieure. Là, peut-être qu'en creusant, on va s'apercevoir que les deux sont bonnes, mais que chaque fois qu'il va penser à l'une, au fond, il va avoir l'impression, il va y avoir de la consolation, on pourrait dire, hein, qu'il va penser à l'autre de la désolation. Mais pourtant, en fait, si c'était aussi simple que ça, il le verrait. Mais il ne le voit pas forcément, parce qu'il a quand même plus envie, quelque part, de faire l'autre. C'est compliqué. On est l'esprit tordu, je pense. Et le discernement pose problème précisément, parce que nous avons ce genre de choses. Mais voilà, c'est quand on arrive, à cause de ce qui a été, de l'exercice, c'est pas savoir une méthode et l'appliquer. C'est plutôt lorsque, par l'exercice, on a réussi à développer une certaine sensibilité. Vous savez, ce genre de choses, c'est un peu comme, c'est comme dans l'art, c'est comme dans, c'est un sens. Vous savez, c'est comme quand on est musicien, par exemple, hein, il y a une éducation de l'oreille. Mais ça c'est vrai de tout, enfin de beaucoup d'autres choses. Ça vient pas le jour où vous lisez un traité. C'est à l'usage, finalement, vous entendez des choses que vous n'entendiez pas au début. Ou bien un peintre qui regarde, quelqu'un qui fait de la peinture, quand il va voir un tableau, il va voir des choses qu'il voyait pas au début. C'est un peu la même chose. Et l'exercice fait que ça aide au discernement. Et puis, il y a la troisième solution. C'est quand rien ne s'est imposé et que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour essayer de discerner les consolations, les désolations, les émotions diverses qui nous traversent, etc. Rien. Sec. Vous êtes toujours au point encéphalogramme plat. De ce côté-là, rien ne marche. Alors il dit, voilà, la troisième méthode, le troisième temps est tranquille. Tranquille, je crois qu'il faut dire par là, c'est votre raison qui va fonctionner. On ne peut pas trouver ça, vous allez fonctionner avec votre raison. On considère d'abord pourquoi l'homme est né. Louer notre Dieu, notre Seigneur, et sauver son âme. Dans ce désir, on choisit pour moyen une vie ou un état parmi ceux que l'Église approuve pour y trouver une aide au service de son Seigneur et au salut de son âme. J'ai dit temps tranquille, au cours duquel l'âme n'est pas agitée par divers esprits et utilise ses puissances naturelles librement et tranquillement. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez trois modes de discernement. Un, on pourrait dire c'est Dieu qui agit, point final. Paul sur le chemin de Damas. Voilà, vous ressentez de manière incontestable un appel qui s'impose à vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a un discernement spirituel qui s'opère, mais qui demande toute votre attention pour essayer de voir. Puis troisième chose, vous restez sec. Eh bien, soyez intelligent, mettez en œuvre votre matière grise et essayez de discerner, je dirais, paisiblement et rationnellement, et mettez-vous en route. Et Dieu, après, vous allez voir, il va y avoir après des confirmations, etc. Suivent alors un certain nombre de règles pratiques pour guider la réflexion. Pesez sagement, là on est dans le raisonnement, là, pesez sagement les divers aspects qui sont en cause. Je veux faire médecine. Ou je veux faire de la théologie. Ben, voilà, réfléchir à mes dons. En quoi est-ce que ça correspond à ce que je sais, à ce que je suis capable de faire? Si par exemple j'ai toujours depuis mon enfance été absolument nul dans les matières scientifiques, ça peut être un indice. Voilà. Si vous imaginez, mais je dirais rationnellement des choses qui sont toutes bêtes, mais toutes utiles, toutes et demander au Seigneur de nous éclairer, aller du côté où penche la raison, et demander à Dieu de confirmer cette décision. Alors je reviendrai sur la confirmation et sur les modes de confirmation dans pas longtemps. Et puis, il va proposer aussi d'autres règles. Et je trouve intéressant parce que on a l'impression qu'il propose ces règles, non pas en disant « voilà la manière miraculeuse hein, », mais il dit « voilà, vous pouvez vous aider avec de ça, ça marche pas, vous aidez de ça ». Il donne ça comme des aides possibles, un peu avec l'idée « ben écoutez, utilisez tout ça », et utilisez votre raison, votre intelligence, et vous allez voir Alors, autre règle, c'est priorité à l'amour pour Dieu. À l'amour pour Dieu. Alors là, très honnêtement, si j'hésite entre être médecin ou être pasteur, ça ne marche pas, je crois. Pour moi, ça ne marcherait pas. Par contre, si c'était, est-ce que je fais des hautes études commerciales ou je suis pasteur? Là, il y a peut-être une nuance quand même. D'un côté, peut-être dans ma tête, mais je ne parle que de ma tête là. C'est un exemple, ce n'est pas une règle générale ce que je vous donne. Mais je peux réfléchir qu'à un moment donné, d'un côté, il y a le service de Dieu et le service des autres. De l'autre, il y a avoir une carrière sympathique où je vais quand même gagner pas mal d'argent et faire des choses. Bon, ça pourrait être un indice dans ce cadre-là. Ou bien d'autres aides. Là aussi, c'est tout bête et pas idiot. Imaginez ce que je dirais à quelqu'un dans ma situation. C'est-à-dire, je fais un jeu de rôle. C'est vous qui venez me voir en me disant, voilà, j'hésite, qu'est-ce que tu en penses? C'est très amusant de voir que combien de fois il y a des choses qui sont faciles, limpides, il n'y a que la personne qui est dedans qui ne le voit pas. Combien de fois vous avez, par exemple, des gens qui viennent vous trouver parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ils sont dans le noir le plus opaque, en dehors d'eux, tout le monde voit la solution. C'est gros comme une maison. Le problème, c'est que ça ne leur sert à rien, tant que ce n'est pas eux qui voient la solution. Au fond, c'est essayer de se mettre, de prendre une distance par rapport au problème, et d'essayer de dissocier sa propre affectivité, sa propre subjectivité de la chose en question. Au fond, si quelqu'un venait me trouver en me disant « j'hésite entre ça et ça », qu'est-ce que je lui dirais? Voilà. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Autre manière d'aider, si j'allais mourir, quel choix aimerais-je avoir fait? Je sais que, voilà, je vais mourir, est-ce que je préfère avoir fait ceci ou fait cela? Là aussi, il y a des moments où ça marche très bien, des moments où ça peut ne pas marcher. Ou bien, ça revient au même, presque. Quel choix aimerais-je avoir fait si maintenant j'étais devant le jugement de Dieu? Je me présente devant Dieu, voilà. Alors là aussi, entre médecins, et puis ça joue pas du tout. Mais dans d'autres cas, je crois que ça peut aider, c'est des moyens qui valent ce qui valent, hein, pour essayer d'éclairer avec des projecteurs différents une question qui se pose, et au fond, essayer en éclairant de la lumière, je dirais, du regard de Dieu, c'est un peu ça, hein, le placer autrement. Et alors après, imaginons que nous avons essayé de discerner par cette troisième méthode, hein, c'est-à-dire une méthode au fond rationnelle. On n'a rien pu discerner de la volonté de Dieu. Dieu ne s'est pas imposé à nous d'une certaine manière. On n'a rien pu discerner avec la deuxième méthode. On a essayé de raisonner. Et puis finalement, on a choisi. On a dit, voilà, je fais un choix. Alors dans l'esprit d'Ignace, ce choix, il va falloir du temps pour que Dieu confirme ce choix. Après avoir fait cette élection ou ce choix, celui qui l'a fait doit aller avec empressement à l'oraison, en présence de Dieu notre Seigneur, et lui offrir cette élection, donc lui offrir ce choix, pour que sa divine majesté veuille la recevoir et la confirmer, si tel est son plus grand service et sa plus grande louange. C'est pour cette raison d'ailleurs que les exercices se continuent après le temps de l'élection. C'est-à-dire que on pourrait imaginer finalement que le cheminement des exercices aboutit à l'extrême fin, au choix. Hein, je discerne telle chose et je m'engage dans ce sens-là. Non, il va encore continuer quasiment une semaine, parce qu'il y a l'idée justement de cette confirmation. Il s'agit de laisser à Dieu le temps de confirmer et de fortifier la décision prise. Cette confirmation, elle peut se faire de diverses manières. D'abord, elle peut se faire par une certitude qui va venir en nous que nous avons fait le bon choix. Ou au contraire, ou le contraire. Ça, je pense que ça a dû vous arriver d'une manière ou d'une autre. Hein. À un moment donné, vous avez fait un choix hésitant. Vous avez fait un choix, vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon. Et puis, dans la prière, et puis voilà, dans la vie, avec le temps qui passe, plus vous revenez, vous regardez en arrière, plus vous dites, mais c'est le bon choix. J'ai bien fait. Plus ce qui était au départ hésitant, vous avez l'impression que, ou bien, vous avez peut-être connu ça aussi, vous êtes dit, je fais ce choix, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, etc. Et plus dans la prière, plus vous revenez dessus, plus ce choix vous paraît, plus vous êtes mal à l'aise. Plus vous vous dites, mais c'est une désolation, hein, l'émotion n'entend pas. Plus vous, moins vous êtes sûr, plus vous vous dites, mais est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Ça, c'est le contraire de la confirmation. Enfin, c'est pareil. C'est, Dieu ne confirme pas, donc remet en cause, en quelque sorte. Ou bien alors, vous êtes dans l'Église, vous êtes dans une communauté, vous êtes entouré d'autres, vous êtes dans le corps du Christ, et quand vous en parlez, tout le monde confirme votre décision. Vous dites, mais oui, bien sûr, c'est bien que tu aies fait ça, c'est sage, tu es fait pour ça, etc. C'est quand même bon signe. Si tout le monde vous dit, ah bon, t'as pris cette décision? Oh là là. Je sais bien qu'on peut avoir raison contre tout le monde. Luther, hein, voilà, sinon on a des problèmes. Mais dans l'histoire, il y a des moments où le prophète est le seul à dire des choses justes. Et ne vous prenez pas trop vite pour un prophète. Dans l'Église, a priori, si vous êtes tout seul à avoir raison et si personne ne pense comme vous, éliminez d'abord toutes les... Peut-être que vous êtes le seul à avoir raison, mais voilà. Demandez-vous quand même si c'est pas vous qui avez tort. Ça peut jouer. Hein. Ou alors, autre chose. Vous faites un choix, et puis les événements vous donnent raison. Ou au contraire, les portes se ferment. Rien ne marche. Je crois qu'il y a des confirmations diverses. Soit par la vie, les portes qui se ferment, qui s'ouvrent. Soit par les frères. Ça, je crois que c'est quand même basique. On est un membre du corps du Christ. On vit avec d'autres, qu'on soit en communauté au sens strict, ou qu'on soit fraternellement dans l'Église, hein, le regard des autres compte, et la confirmation des autres compte. Et puis, on retrouve l'émotion, mais a posteriori, dans le regard intérieur qu'on porte sur une décision qu'on a prise. Voilà. Alors, d'autres indications facultatives, on pourrait dire. Il y a une deuxième liste de règles. Les règles sur le même sujet pour un plus grand discernement des esprits. Ça, c'est les points 328-336. Et Ignace donne encore bien des indications, il me semble qu'ils sont assez précieuses. Alors, voici quelques-unes. Point 4. C'est le propre de l'ange mauvais qui se transforme en ange de lumière d'aller d'abord dans le sens de l'âme fidèle et de l'amener fidèle, finalement dans le sien. C'est-à-dire qu'il propose des pensées bonnes et saintes en accord avec l'âme juste, et ensuite, peu à peu, il tâche de l'amener à ses fins en entrant dans l'âme dans ses tromperies secrètes et ses intentions perverses. Il n'y a pas que nous qui sommes tordus. Le diable aussi, probablement. Mais je trouve que c'est quand même intéressant, ça. Les choses ne sont pas, là encore, blanches ou noires. Très souvent, les tentations... Enfin, les erreurs d'aiguillage commencent avec des bons arguments. Donc il ne faut pas seulement se baser sur les bons sentiments ou les bons arguments. Hein, au fond, il dit, l'ange mauvais se transforme en ange de lumière, et il va d'abord, finalement, rentrer dans le sens de ce qu'on peut ressentir et de ce qui est bien pour faire, pour tordre petit à petit. Un autre point, il faut faire grande attention au déroulement de nos pensées. Si le début, le milieu et la fin sont entièrement bons, orienté entièrement vers le bien, c'est le signe du bon ange. Mais si le déroulement de nos pensées nous amène finalement à quelque chose de mauvais, ou de distrayant, ou de moins bon que ce que l'âme projetait d'abord, ou qui affaiblit, inquiète et trouble l'âme en lui enlevant la paix, la tranquillité et le repos qu'elle avait auparavant, c'est un signe clair qu'il procède du mauvais esprit, ennemi de notre progrès et de notre salut éternel. Voilà. J'ai conscience que là, je vous dis des choses, on lit des choses ensemble, vous avez ça, c'est pour ça que c'est bien que vous l'ayez sur le papier. Revenez dessus, réfléchissez sur ce genre de choses, ça me paraît remarquablement pertinent. Combien de fois, fond, quand on réfléchit, c'est très proche du point précédent. On parle de quelque chose qui est tout à fait bon, sain, juste, et on arrive à un truc pervers. On réfléchit sur ce qui se passe dans l'Église. Et puis on commence par remarquer des choses qui sont tout à fait justes, et c'est sain, et c'est l'amour qui nous fait dire ça, et c'est tout ça, et c'est que bien, et c'est sûrement le Saint-Esprit qui nous pousse, et tout, et tout. Et puis on continue, et petit à petit, en continuant à cette réflexion qui est lucide, intelligente, guidée par le Saint-Esprit, on s'aperçoit que tel frère ou telle sœur est vraiment un crétin fini. Et petit à petit, on se rend compte que ça développe en nous, je dirais, soit de la haine, soit du mépris, soit une indignation qui fait que, voilà, qu'on va être dans une situation qui, au bout d'un certain temps, elle est plus bonne du tout. Le résultat de ce cheminement, il sera mauvais, même si, au départ, il y avait pleine lucidité dans ce cheminement. Ça, c'est exactement ce qu'il veut dire quand il dit l'ange mauvais se déguise en ange de lumière. On a quelquefois des choses. Combien de fois dans les églises, dans nos églises, il y a des catastrophes, au point de départ, il n'y a que des bonnes choses, c'est des choses qui sont justes, de part et d'autre, ça va faire éclater l'église, de part et d'autre, il y a des gens qui sont subjectivement honnêtes dans leur bon droit, etc. Ils ne se rendent pas compte que, au fil du développement de leur sensibilité, de leur réaction, ils aboutissent à des trucs complètement pervers, complètement fous, complètement dangereux, que finalement ils vont nourrir. Combien de fois on voit des gens qui nourrissent à l'intérieur d'une église ou d'un conseil d'église, etc., ce qu'il faut bien appeler une haine féroce contre d'autres, camouflée sous des pensées pieuses ou théologiquement justes. Mais la manifestation même avec laquelle la manière dont ça se manifeste prouve bien que c'est faux, même si le point de départ n'est pas faux. Donc voilà, essayez de prendre conscience de ça. Enfin, et je termine avec ça, chez ceux qui avancent de bien en mieux, le bon ange touche l'âme de façon douce, légère et suave, comme la goutte d'eau qui pénètre une éponge. Le mauvais touche de façon aiguë, avec bruit et agitation, comme lorsque la goutte d'eau tombe sur la pierre. Chez ceux qui avancent de mal en pis, les mêmes esprits touchent de façon inverse. La raison en est la disposition de l'âme qui est contraire ou semblable à celle des anges. Quand elle leur est contraire, en effet, leur entrée est bruyante et sentie de façon perceptible, et quand elle leur est semblable, l'entrée est silencieuse, comme chez soi, portes ouvertes. Bon, à creuser ça aussi. Mais pas inintéressant, je dirais, pour essayer de discerner certaines manifestations spirituelles. L'idée, quand Dieu ou le diable agit dans le sens qui est déjà le vôtre, c'est-à-dire que vous êtes déjà vers le bien, au fond, le Saint-Esprit travaille comme l'eau qui rentre dans une éponge. Parce que, voilà, c'est insensible parce qu'il n'y a pas opposition. Alors que lorsque c'est en sens inverse, finalement, ça va faire plus de bruit et ça va se ressentir plus fortement. Voilà, je m'arrête là. Juste peut-être vous donner quelques indications biographiques, mais très courtes, sur le discernement. Je vous rappelle qu'en début d'après-midi avec Linda, on va avoir un travail un travail en groupe sur un texte de discernement communautaire. Ça va être déjà, je dirais, une mise en œuvre de ces principes, sauf que ça ne visera pas un discernement personnel, mais un discernement communautaire, mais la démarche est la même. Et je dirais même, nos églises ont un puissant besoin d'apprendre à discerner, nos églises, plus largement, mais à discerner ensemble, hein, ce discernement communautaire. Une assemblée générale, c'est pas juste l'assemblée générale d'une copropriété, mais le discernement de la volonté de Dieu. Alors, vous avez Monique Lorrain, qui est une femme, une sœur qui travaille au Tchad, en Afrique, qui a écrit dans les cahiers, justement, les suppléments en vie chrétienne, un petit bouquin, « Discerner, que se passe-t-il en nous ?» qui est remarquable. C'est la dimension ignatienne, traduite en français très courant, accessible à un monde africain. Elle a fait ça d'abord pour les gens avec qui elle travaillait. Hein. C'est clair, intelligent, facile à lire, remarquable. Alors, vous avez Christus, vous savez, c'est une collection de revues de spiritualité jésuite, de grosses revues, en général excellentes. Enfin, elles sont toutes excellentes, enfin, elles sont plus intéressantes ou moins en fonction de nos goûts. Il y en a un qui s'appelle l'accompagnement spirituel, hein, c'est le numéro 153 hors série, c'est remarquable. Et vous avez Maurice Giuliani qui est le jésuite dont je vous parlais, qui avait remis en France en valeur l'accompagnement dans la vie, qui en particulier fait un article sur les motions de l'esprit qui est très bien, mais voilà. Ce genre de revue, il y a plein de choses pour l'accompagnement qui sont très précieuses.